qu'il n'y a pas que les bons et les méchants. Savoir que c'est pas tout blanc, que c'est pas tout noir. La morgaine de cuir s'écrit no future, mais vend ses barbelés au maître sur mesure. Tu ne dis pas je t'aime quand elle te déshabille, tu la baises quand même juste derrière la grille. Elle réduit au confort tes désirs d'aventure et taxe tes envies de passion et d'air pur. C'est l'indice d'écoute branché sur le cerveau. C'est 1933 en place pour le show. L'avenir est un chien crevé sous un meuble. Sentir que c'est pas tout noir, que c'est pas tout blanc. Se dire qu'il n'y a pas que les bons et les méchants. Savoir que c'est pas tout blanc, que c'est pas tout noir. La peur. La peur, c'est le corbeau penché sur le devoir. C'est du papier monnaie contre du désespoir. De la dérision face à la misère noire. C'est depuis le début que le chantage
est contraire à la morale biologique et qu'il y a une certaine amoralité à se comporter comme font tous ces jeunes gens, à la fois en bête et en enfant. Mais ceci dit, je vous dirais qu'il ne faut peut-être pas accuser trop ces jeunes gens. Je voudrais savoir si leur famille, si la société a fait ce qu'il fallait pour créer avec ce nœud ces freins qui leur ont permis de résister à ces instincts périls, à ces instincts animaux périls, c'est-à-dire à ces instincts s'abandonner à cette régression comme paraîtrait régression. Ces jeunes gens, des gens certainement désinsatisfaits, des gens qui n'ont été intéressés à rien, captivés par rien, qu'ils fassent cette régression. Je pense qu'il faudrait surtout s'attaquer aux causes plutôt que s'attaquer à les vrais. Alors c'est peut-être que c'est toute la société qu'on doit transformer. Je répète, ces jeunes gens, des gens certainement désinsatisfaits, ces gens qui n'ont été intéressés à rien, captivés par rien. Il ne s'agit pas donc de maintenant que les jeunes fassent cette régression. Je pense qu'il serait tout de faire en sorte que les jeunes gens n'aient pas envie de le danser.
c'est Jazz Lib en direct des studios. Yves au micro et aux manettes à la technique, notre collaborateur adoré Laurent, qui boit immodérément. Non, je blague. Numéro du studio 01 43 71 89 40. Vous, comme d'habitude, vous allez sur le site de radiolibertaire.net pour réécouter les émissions en podcast disponibles tout de suite après la diffusion pendant 12 mois. Vous pouvez également les télécharger. Je vous les conseille. Vous pouvez consulter également l'agenda plus d'autres informations. L'agenda qui est mis à jour sur l'ensemble des émissions, la grille des programmes, etc., etc. Vous avez ma page Facebook Yves Jazz Lib sur laquelle je mets, comme d'habitude, l'ensemble des informations liées à l'émission, les playlists, les pochettes d'albums et de temps en temps, je mets une petite information sur ma page Instagram. Mais bon, voilà, c'est assez rare, mais néanmoins, je le signale. Il faut ne pas oublier de souscrire pour nous aider, pour que l'on puisse entretenir le matériel. Enfin, vous connaissez la musique. Nous avons besoin de votre participation. Alors ce soir, donc, émission en direct, nous allons commencer par un hommage au contrebassiste William James Edward Lee, dit Bill. Comme vous le savez, William, Bill est le diminutif de William, et qui était né le 23 juillet 1928 et est mort le 24 mai dernier. Alors c'est un bassiste plutôt de l'ombre, bien que ayant participé à bon nombre de sessions, joué avec énormément de musiciens, je vais vous en donner la liste dans pas longtemps. Mais il a été, comment dire, sollicité pour au moins 250 albums dans sa carrière, ce qui est donc voilà, c'est quelqu'un qui est pas connu, mais qui a joué avec des musiciens aussi éloignés que Chris Anderson, un des pionniers de l'enseignement du piano. Il y a d'ailleurs un très bon disque en duo avec Charlie Adden. Chris Anderson a été le professeur d'Herbie Hancock, entre autres. Il a également joué avec Duke Ellington, avec des musiciens comme Peter Paul et Mary, Simon Garfunkel, bon voilà, beaucoup de gens de ce qu'on appelle le folk américain, comme Pete Seeger, Woody Guthrie. Et il figure sur bon nombre de tous ses albums, y compris le Mr. Tambourine Man, que tout le monde connaît, voilà. Il est aussi, évidemment, moins connu que son fils, Spike Lee, hein, le réalisateur qui a fait tous les films dont, connus comme Do the Right Thing et Mo Better Blues. D'ailleurs, Mo Better Blues, la bande-son a été composée par son père. Alors, j'en profite pour dire que moi aussi, je fais la musique de film pour mon fils cadet, donc je mettrai prochainement sous peu le lien de son site internet. Voilà, petite publicité personnelle. Alors, il a joué avec Burt Bacharach, dont nous avons rendu hommage récemment, avec Judy Collins, Stanley Cowell, magnifique pianiste. Johnny Hooker, évidemment, Clifford Jordan, donc nous allons écouter tout de suite ses enregistrements, Cat Stevens, qui a mal tourné politiquement, hein, il faut le dire, Odetta, les mamas et les papas, mamas and papas, Harold Mabern, le pianiste, Carmen McRae, la chanteuse, voilà, Charles Stolliver, excellent trompettiste, etc., etc. Donc c'est un musicien qui est à redécouvrir, avec vraiment une discographie absolument incroyable, et puis évidemment toute sa filmographie, puisqu'il a été directeur musical de beaucoup de musique de film, dont évidemment celui de son fils. Voilà. Quelques repères discographiques. John Handy, qui est un saxophoniste qui a joué avec Charlie Mingus, entre autres, Ray Bryant, magnifique pianiste, Johnny Griffin. Dans cet album, très très bel album de Johnny Griffin qui s'appelle Change of Pace, qui est vraiment très très beau. Aretha Franklin, Frank Strozzi, altiste honteusement oublié, c'est vraiment tout à fait dommage. Simon Garfunkel, je voulais dire, José Feliciano, Peter Paul and Mary. Bon, voilà. Pat Martino également, Stanley Cowell, Richard Davis, un autre contrebassiste, Chuck Loeb, le guitariste, etc. Bon, voilà, on ne va pas s'énerver plus que ça. Donc, juste pour terminer sur Billy, il a été marié et puis ensuite sa femme est morte d'un cancer assez rapidement. Il était également sa femme était photographe. Elle est morte d'un cancer et puis tout de suite il s'est retrouvé une autre copine et ça a pas plu à son fils. Ils se sont fait la tête pendant très 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 longtemps. Et puis à partir des années 85-90, il a commencé à être addictif, on va dire, à l'héroïne. Et c'est le 25 octobre 91, et je terminerai là-dessus, qu'il s'est fait arrêter par la police en possession de quelques grammes d'héroïne. Et il dit que ça a été une chance pour lui parce que ça lui a permis d'arrêter et de se réveiller, de prendre conscience qu'il était très très mal barré avec cette histoire. On veut bien le croire, s'il vous plaît, surtout ne vous adonnez pas à des substances aussi nocives. Surtout ça, c'est vraiment très très moche. Alors nous allons rendre un hommage à ce contrebassiste dans un album que j'affectionne beaucoup, vraiment beaucoup. C'est un album miraculeux, c'est une sorte de joyau qui date de 1973 sur le label Strataist. Billy a été le fondateur de ce label Strataist, qui est un petit label qui avait enregistré beaucoup de musiciens comme Cedar Walton, notamment, le pianiste absolument magnifique, et Clifford Jordan, avec le somptueux, mais vraiment somptueux batteur... Billy Higgins, pardon. Le somptueux batteur Billy Higgins, qui vraiment est... D'ailleurs, je mettrai sur la toile, je l'avais déjà mis il y a très très longtemps, mais je mettrai sur la toile une vidéo de ce quartet avec Cedar Walton et Sam Jones, et malheureusement pas avec Stanley Cowell et Billy, mais le travail de Billy Higgins à la batterie était absolument fantastique. Il faut l'écouter aussi en trio avec Pat Metheny et Charlie Haden, c'est absolument somptueux. Bref, cet album de Clifford Jordan s'appelle The Glass Bead Game, c'est-à-dire le jeu de billes. Et toutes les compositions que je vous propose sont de Billy. Et ça a été donc enregistré en 73. Il y a donc Stanley Cowell, magique, vraiment magique au piano. Clifford Jordan au ténor, absolument somptueux. Billy Higgins et lui-même Billy. Et cet album est une sorte... Pour moi, il y a très peu de choses virtuoses dans cet album. C'est pas du tout technique, mais il y a une telle magie qui s'est opérée. Ça a été enregistré pendant un orage dans les studios de Strataist à New York, et il y a vraiment une sorte de magie, de sérénité, de perfection. C'est un des plus grands albums de l'histoire du jazz, et vraiment je ne mâche pas les mots. On va commencer par un premier thème qui s'appelle John Coltrane, évidemment en hommage à John Coltrane, et on continuera par la suite. C'est parti, Laurent. Thank you. Jazz-Libre, Radio Libertaire, alors vous avez, évidemment, quand vous réécouterez ou si vous procurez cet album, Stanley Cowell fait une nappe un peu comme un harpiste en jouant sur les cordes du piano avec sa main, avec ses doigts. À noter que l'album était sorti en double vinyle à l'époque, hein, en 73, l'enregistrement en 74, la sortie, et qu'il a été très peu réédité en CD, et il n'est pas en double album, ce sont deux albums séparés. Le premier s'appelle tout simplement Glass Beat Games Clifford Jordan Quartet, et l'autre volume 2. Alors nous continuons avec un autre thème, parce que vraiment cet album est pour moi fondateur de beaucoup de choses. Et un autre thème en hommage à un autre musicien qui s'appelle Eddie Harris, hein, que évidemment vous connaissez tous. Et c'est un morceau que j'affectionne aussi pour une raison simple, c'est que je l'ai joué aussi avec mon quartet à l'époque. On avait repris beaucoup de choses de ce disque. Voilà, c'est parti Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire. Plusieurs remarques. Stanley Cowell est absolument, au piano, est absolument magnifique. Alors, c'est un disque, enfin, ce quartet, ce double quartet, puisque l'autre est avec Cedar Walton et Sam Jones. Et, comment dire, on a l'impression que c'est une musique simple, facile, et qui, mais en fait, non, pas du tout, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas tant que ça. Certes, on n'est pas dans la furie d'un Coltrane ou d'un Chris Potter actuellement, par exemple. Mais ça n'est pas complètement dénué de difficultés, quoi qu'on en dise. Et puis, il y a cette télépathie, cette écoute, cette finesse, cette sensibilité qui est devenue un peu rare de nos jours et qui on faisait vraiment un quartet absolument miraculeux. Enfin, je le dis, pour moi, c'est un de mes albums préférés, toute époque confondue. D'ailleurs, à partir de dans 15 jours et jusqu'à fin août, je ne vais, comme je pense que vous allez tous partir en vacances, je ne vais pas faire de nouveautés. On les reprendra à la rentrée, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Mais je vais vous faire 3 séances de la playlist de tous les morceaux que j'affectionne, que je préfère depuis que j'ai commencé à écouter cette musique, parce que ça va faire beaucoup. Mais je vais faire une petite sélection, ça va être très panaché. Bref. Donc voilà, c'est un album que j'affectionne particulièrement et aussi très important au niveau du son. Il n'y a quasiment aucune différence de son entre le vinyle et le CD, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont complètement respecté l'enregistrement, qui est très bien enregistré. D'ailleurs, dans le premier morceau, vous avez eu, il y a un petit bruit de micro. Je pense que à ce moment-là, Billy a touché le micro et ils l'ont pas enlevé. Il y a quelque chose comme, ils n'ont pas voulu refaire la prise et je les comprends. On a préféré garder ce micro défaut, cas de le dire. On sent vraiment tout le bois de la contrebasse. Enfin, vraiment, c'est parfait. Vraiment parfait à tout égard. Et on continue, on va terminer donc notre hommage à Billy, qui, en plus, a une belle place de choix dont il s'exprime vraiment bien dans ce double album. Avec un thème qui s'appelle Maymoon, qui est absolument magnifique et absolument magnifique. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. S'il y a un album à avoir, on va dire, il y a 10 albums pour une île déserte, celui-ci en fait partie. Je vous le recommande chaudement. C'est parti, Laurent. Jazz Libre, Radio Libertaire, c'est un peu difficile de reprendre la parole après ça. Bon, voilà, c'était donc notre hommage à Bill Lee qui nous a quittés à l'âge de 94 ans. Nous allons donc, continuer avec, alors là, deux morceaux de choix. Je vais d'abord faire une petite citation, c'est Miles Davis qui disait un jour « Il faudrait que l'ensemble des jazzmen se mettent à genoux pour louer Duke Ellington. » Eh bien, voilà. Nous, les amateurs de jazz, on devrait se mettre à genoux et louer Zeffelman, parce que Zeffelman, j'arrête pas de vous en parler de ce globe-trotteur qui part à la recherche de bandes inédites, a retrouvé récemment, ça vient de sortir, deux trésors, dont un qui s'appelle Trésor au pluriel et l'autre qui s'appelle Blue Room de Chet Baker. Deux doubles albums, alors comme d'habitude, somptueusement enregistrés, somptueusement illustrés, avec comme toujours les témoignages des musiciens de l'époque avec qui il a joué. Qui sont encore vivants pour certains, et donc avec un livret avec toujours de nombreuses pages, des très belles photos. Là, pour celui de Chet Baker, on a un 24 pages. C'est absolument somptueux, mais vraiment absolument somptueux. Alors, ce sont des bandes qui ont été enregistrées en Hollande, au studio Vara, exactement, en 1979, et qui était un peu beaucoup tombé dans l'oubli. Et donc, évidemment, Zeffelman qui parcourt le monde. Et c'est vraiment... voilà, il faut, nous, amateurs de jazz, qu'on se mette à genoux devant lui, parce que il nous comble, mais vraiment d'une manière incroyable. Hein, le nombre de choses que j'ai passées... De ses découvertes est absolument incroyable. Et donc, il a retrouvé ses sessions et il y a donc un double album, une partie avec Phil Markowitz au piano qui venait de débuter sa carrière en fait, et Jean-Louis Racinfos à la contrebasse qui a très longtemps accompagné Chet, et Charles Rice à la batterie. Il y a une autre session avec Frank Alsen au piano à la place, Victor Kayatou à la contrebasse et Eric Henneke à la batterie. On va commencer par le commencement parce que c'est pas la peine de... Vous connaissez tous Chet, sa vie, etc. Là, la seule chose que je voudrais dire sur ce double album, c'est que Chet, là, c'est pas du tout le Chet qui une épave, qui joue comme ça un peu. Non, il est en pleine forme, ça dépote. C'est absolument somptueux. Hein. C'est, n'oublions pas que c'est quelqu'un qui a joué avec Charlie Parker quand même, donc faut pas exagérer. Et on va commencer par un thème qui s'appelle The Best Thing For You, donc la meilleure chose pour toi, de Irving Berlin. Et donc ça a été enregistré le 10 avril 1979 au studio 2 Vara à Hilversum en Hollande. Et c'est un pur joyau qu'il faut avoir absolument aussi dans sa discothèque. C'est parti Laurent. Thank you. Jazz Libre, Radio Libertaire, donc ce qui est incroyable avec Chet Baker, c'est qu'il y a toujours une évidence complète dans son jeu. On pourrait dire, ah tiens, j'aurais pu faire cette note-là ou cette note-ci, non, avec Chet Baker, non, c'est pareil, c'est à la fois parfait et puis d'une évidence incroyable. Alors Phil Markowitz disait dans... que quand il a été engagé par Chet Baker, il était très inspiré par Herbie Hancock, par McCoy Tyner essentiellement, et donc il avait l'habitude de jouer out, c'est-à-dire un peu en dehors de l'harmonie principale, mettons que si vous êtes en do, et bien vous allez jouer tout sauf en do, voilà, pour faire simple. C'est pas aussi simple, mais bon, pour essayer de faire simple. Et quand il a été embauché par Chet Baker, il s'est aperçu qu'il pouvait pas faire ça, ou tout au moins pas trop souvent, parce qu'il disait que si on faisait un accord un peu pourri derrière, et ben ça foutait un peu tout en l'air. Et c'est marrant parce que ça vient à contrario de ce qu'avait dit Herbie Hancock au concert de Stuttgart en 1963 avec le quintet, mais bon, je vous en ai déjà parlé, on va pas revenir là-dessus, ou je vous le redirai à l'occasion. Et donc, voilà, Phil Markowitz a été obligé de changer un petit peu son jeu pour être plus adapté au jeu de Chet, et ce qui prouve aussi que l'intelligence des musiciens d'être un peu tout terrain et de respecter le style et le drive de ces musiciens qui sont avec une telle personnalité qu'il faut il faut mettre en lumière le jeu. Donc magnifique disque et qui vient de sortir, donc je vous le recommande plus que chaudement également. Et continuons donc sur ce double album qui s'appelle Blue Room avec un thème de Miles Davis qui s'appelle Down. Radio Libertaire, que dire, peu de commentaires à faire. Nous allons continuer avec un thème attribué à Miles Davis qui s'appelle Nardis, mais bon, tout le monde aura reconnu évidemment la patte de Bill Evans, même si lorsque Bill le joue, eh bien, il met également le fait que c'est Miles Davis. Alors, il y a même sur certains albums où c'est co-signé Miles Davis, Bill Evans. Bon, alors, dans le commentaire de ce livret, il est dit qu'ils prennent Nardis de manière plutôt lente. Je ferai remarquer que la version originale qui avait été jouée par, qui n'a jamais été jouée d'ailleurs par Miles, qui avait été composée par Miles pour le quintet de Cannonball Adderley où figurait justement Bill Evans, eh bien c'est une version lente également. Donc en fait, Chet Baker dans ce cas-là se réfère plutôt à la version originale plutôt que les versions que Bill a repris par la suite beaucoup plus rapidement. Et donc là, il est avec toujours Phil Markowitz au piano, Jean-Louis Racinfos à la contrebasse qui est belge et Charles Reiss à la batterie. C'est parti, Laurent. Jazz Libre, Radio Libertaire, évidemment, c'est magnifique, pas d'autre chose à dire. La note où il faut, quand il faut, ça c'est un swing absolument imparable, hein, quoi qu'on en dise. Chet a toujours swingé extrêmement fort, faut pas croire. Il y a évidemment, je pense, toujours une inspiration sur le fond du temps qui vient de l'estéréo, hein, cette espèce d'étirement comme ça, mais en réalité ça swing, ça se casse jamais la figure. Et puis il est à noter dans ce double album qu'il y a des morceaux très longs qui durent plus de 10 minutes, donc voilà, je vais pas tout vous mâcher, hein, c'est à vous aussi d'aller chercher cette beauté. Voilà, c'est vraiment. Et puis également, il chante aussi, puisque ça faisait aussi. Vous savez qu'il a eu quelques soucis avec des dealers qui lui ont pété les dents, et donc il est resté un petit moment sans pouvoir jouer. Donc il chantait. Donc là, il fait les deux, évidemment. Il a gardé toujours cette habitude de chanter, de scatter, d'improviser. Et d'ailleurs, c'est absolument incroyable lorsqu'on le voit, lorsqu'on l'a vu, ou comme moi je l'ai vu sur scène, quand il chante, il chante dans ses chorus comme il joue de la trompette. C'est exactement pareil. C'est absolument magnifique. Donc là, nous allons terminer sur ce double album, je le rappelle, retrouvé par Zef Ellman, qui s'appelle Blue Room, enregistré en 1979 au studio Vara en Hollande, à Hilversum exactement. Et donc là, il s'agit d'une session qui a été enregistrée le 9 novembre 79 avec Frank Elsen au piano, Victor Kayatou à la contrebasse et Eric Ineke à la batterie, et sur un thème évidemment un vieux saucisson, comme on dit, qui s'appelle The Old Devil Moon. Voilà, c'est parti, Laurent. Thank you.